Bonjour, je suis Amine Memouni.
Bonjour, je suis Tam Chauvière.
Nous sommes étudiants en Master 2 DJC de Poitiers. Notre appétence pour le droit des affaires nous pousse naturellement à nous intéresser à l'actualité juridique et plus spécifiquement à l'environnement qui entoure cette branche du droit. Le but de ce podcast est d'avoir une vue d'ensemble sur le monde juridique et le monde des affaires. C'est dans ce sens que nous partirons à la rencontre des professionnels, tous plus talentueux les uns que les autres.
Pour ce deuxième épisode, nous sommes rendus à Paris aux côtés de Maître Bertrand Perrier, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État et spécialiste en art oratoire. Vous découvrirez son parcours ainsi que sa vision personnelle sur la prise de parole en public et sur l'exercice du débat.
Parler, c'est manipuler.
Bienvenue dans ce deuxième épisode.
Bonne écoute.
Bonjour Maître Perrier.
Bonjour.
C'est un honneur de vous avoir comme invité. On est très heureux de faire ce podcast avec vous au sein de vos magnifiques locaux. Alors, comme nous l'avons évoqué, vous êtes avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Mais le grand public vous connaît surtout pour votre expérience dans l'art oratoire, discipline que vous enseignez par ailleurs à HEC et Sciences Po. Ouais. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous présenter votre parcours et nous expliquer comment et pourquoi vous êtes spécialisé dans l'art oratoire ?
Alors, mon parcours n'est pas passé par un DJCE, c'est ma principale faille, c'est un parcours lisse parce qu'il n'a pas eu le bonheur d'être couronné par un DJCE. Donc, j'avais pas d'avocat dans ma famille, ni d'ailleurs de professionnel du droit, donc c'était pas quelque chose d'absolument naturel, donc j'ai pas mal tâtonné. Je savais pas trop ce que je voulais faire après le bac, donc comme tous les gens qui savent pas, j'ai fait Sciences Po, ce qui est une façon de retarder le moment des choix. Parallèlement, j'ai fait du droit à Paris 2. Parce que c'était à côté de Sciences Po et ça me permettait de sécher les cours d'un côté et de l'autre sans trop me faire gauler. Et ensuite, donc, j'ai fait à Paris 2 mes 5 années jusqu'au Master 2 de droit privé général. Parce que là encore, je voulais garder le plus possible de généralité au sein du droit civil. Donc, j'ai fait le Master 2 de droit privé général. J'avais fait du droit plutôt public à Sciences Po. Ensuite, j'ai fait une école de commerce pour faire de la fiscalité, matière qui ne m'a pas beaucoup intéressé, il faut bien dire.
Nous non plus.
Voilà. Vous n'aimez pas les quinquies, terres des siestes, tout
non,
ça ne vous
non,
pas plaît
pas tout.
Beaucoup. Alors moi non plus, je ne parle pas la langue. Et puis j'ai un associé qui fait ça très bien, donc je n'ai pas à toucher à cette matière. Et j'ai donc passé l'examen d'avocat. Je n'avais pas l'idée d'être magistrat, qui était une profession que je trouvais vraiment trop difficile dans son éthique, dans le côté dépassionné, un peu entre ciel et terre. Donc, je ne me voyais pas capable d'être magistrat et probablement je n'étais pas capable de l'être parce que j'aurais eu plein de préjugés et j'aurais probablement été un mauvais juge. Et donc, je suis devenu avocat. Et comme je vous ai dit, j'avais fait un peu de droit public et un peu de droit privé. Ouais. Je cherchais un métier qui pourrait me permettre de combiner les deux.
D'accord.
Et par hypothèse, le métier d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui nous amène à plaider devant les deux juridictions suprêmes de chacun des ordres, combine le droit public et le droit privé. Donc je suis entré chez un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation avec l'idée de devenir moi-même un jour avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et il se trouve que parmi les obligations pour devenir, après être avocat au barreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, était de passer un concours d'éloquence. D'où ma première expérience de concours d'éloquence. C'était pas du tout un choix, c'était une obligation. Il fallait faire ce concours, deux fois d'ailleurs, enfin, sauf parce qu'on gagne une première fois, mais je ne l'ai pas gagné ni la première, ni d'ailleurs la deuxième fois. Mais ça a été mon premier contact, c'était un concours d'éloquence où on devait replaider les grandes affaires qui, dans l'année précédente, avaient été tranchées par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Et donc, mon premier concours d'éloquence, c'est sur l'indétermination du prix. Vous voyez, probablement quelque chose que vous avez étudié en cours. Et donc, on replaidait les grandes questions qui avaient agité la doctrine. Ça existe toujours, d'ailleurs, mais c'était une obligation pour devenir avocat au Conseil. Et ça a été mon premier contact avec l'art oratoire. Et puis après, j'ai passé d'autres concours d'éloquence, la conférence du barreau. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cette question.
D'accord, très bien.
D'accord, c'est clair. On connaît tous l'adage « le savoir est une arme ». Mais en guise d'introduction, est-ce que vous pourrez d'ores et déjà nous affirmer que la parole est également une arme ?
Oui, évidemment. Après, la question se pose de savoir entre quelles mains on met cette arme. Mais il est évident que c'est une arme. Le mot arme, évidemment, est chargé d'une connotation violente qui fait qu'il est souvent mal compris. C'est un atout, c'est une compétence, c'est aujourd'hui une nécessité, même dans les j'allais dire même surtout en réalité dans les professions du droit, qui sont toutes des professions de la parole, que l'on soit magistrat, évidemment avocat, avocat au Conseil d'État aussi, parce que c'est vrai qu'on a des procédures essentiellement écrites, mais on a aussi de l'oralité, que l'on soit professeur de droit, que l'on soit notaire, policier, enfin toutes les professions qui ont un rapport avec le droit ont une composante d'oralité, et la réalité c'est qu'on a beau être dans sa matière un technicien extraordinaire, des procédures collectives, du droit des sociétés et de la fiscalité, ce que vous voulez, si on n'a pas la capacité à expliquer, à convaincre un juge, un client, un futur client, un confrère, un contradicteur, eh bien on a une difficulté plus importante à s'imposer dans la profession. La profession n'est pas faite que de grands techniciens, elle est aussi faite de ceux qui sont capables d'expliquer leur technicité à l'extérieur.
D'accord. Et y a-t-il une réalité sociologique dans le fait d'être bloquant, une différence entre les personnes issues d'un milieu aisé et les personnes issues d'un milieu défavorisé ?
Alors, je ne crois pas du tout à l'idée qu'il y aurait un déterminisme social dans la prise de parole en public. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans le grand oral du bac, vous savez qu'il y a une réforme du baccalauréat qui fait que a été créé donc un grand oral, les résultats ne sont pas meilleurs dans les lycées bourgeois, ils ne sont pas meilleurs dans les villes que dans les campagnes, ils ne sont pas meilleurs à Paris qu'en province. Et donc, il n'y a pas de réalité sociale qui ferait que, parce qu'on est issu d'un milieu très favorisé, on s'exprime mieux. C'est vraiment démenti par les faits statistiques. Et de ce point de vue-là, le grand oral est un assez bon indicateur, puisque, bien sûr, il y a la question des connaissances, mais c'est aussi un oral de conviction, un oral où on teste le vocabulaire, où on teste la capacité à argumenter, et pas seulement à réciter. Or, il se trouve que la distribution des notes n'est pas équivalente à la distribution des richesses ou des privilèges sociaux. Après, évidemment, si à Eloquentia on va en Seine-Saint-Denis, c'est aussi parce que c'est là que la parole doit être le plus transmise, parce que c'est aussi un marqueur social et qu'on peut dire de quelqu'un d'où il vient après avoir entendu quelques mots de lui. Ouais. Mais pour autant, il n'y a pas de déterminisme absolu, si vous voulez. Évidemment, il y a des gens qui sont plus en difficulté, mais il y a des gens qui sont plus en difficulté dans tous les milieux.
D'accord.
Mais concernant donc ce que vous disiez sur la Seine-Saint-Denis et le fait qu'il y avait des façons de parler qui trahissaient peut-être une origine sociale un peu plus défavorisée. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des conséquences en termes d'insertion professionnelle et d'élévation sociale ?
Vous savez, il y a une étude qui a été faite par l'Académie des sciences aux États-Unis qui dit que votre interlocuteur vous a classé dans une catégorie socio-professionnelle après 7 mots que vous avez dit. Donc au bout de 7 mots, je sais à peu près qui vous êtes. À peu près. Ça peut être aussi inexact, ça peut être subjectif, mais en tout cas, je me suis fait une idée de vous. Et donc, évidemment, ça peut être un obstacle à toute forme d'insertion professionnelle, citoyenne, sociale, économique. Et vous allez passer des oraux dans vos examens et vous savez très bien que votre capacité à employer le mot juste, à poser votre voix, à trouver une structure dans votre propos, c'est aussi essentiel dans une sorte de conformité sociale. On ne peut pas nier que souvent l'oral est aussi une épreuve de conformité. On cherche, et on a souvent tort d'ailleurs, mais souvent instinctivement, on cherche des gens qui nous ressemblent, ce qui est tragique. Au contraire, on devrait chercher des gens qui sont différents de nous, qui ont une parole moins lisse. Moi, j'ai une parole qui est extraordinairement bourgeoise. Mais pour autant, je ne suis pas non plus en permanence à la recherche de gens qui ont la même parole, finalement, assez formatée que la mienne. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, quand on nous dit « mais à Eloquentia, ça a changé ma vision de la parole », mais c'est vrai, mais parce qu'avant, j'avais l'idée que la parole obéissait à un modèle qu'on voit souvent dans les concours d'éloquence d'ailleurs, où on cherche quelque chose de très normé, alors qu'en réalité, ce qui est amusant dans la parole, c'est la surprise. C'est celui qui, précisément, ne parle pas comme moi, parle de façon inattendue, différente. Et c'est vrai qu'on cherche à Eloquentia, justement, à avoir des points de vue différents. le point de vue d'un slammer, le point de vue d'un poète, le point de vue d'un journaliste, le point de vue d'un comédien, d'un stand-upper, d'un coach vocal, et parce que ça ouvre aussi les champs dans la parole. Moi, j'ai une vision de la parole qui est très étriquée, puisque ma parole, elle sert essentiellement à convaincre un juge sur une position juridique. Ça peut servir à mille autres choses, à communiquer des émotions, à enseigner, enfin, il y a mille autres usages de la parole que le mien. Et donc, je trouve que la richesse d'Eloquentia, c'est précisément de permettre d'ouvrir les portes d'entrée dans la parole par les paroles urbaines, les paroles humoristiques, les coachs, les ressources humaines, et pas seulement une parole de conviction juridique.
D'accord, très bien. Et donc, afin d'imiter ces disparités qui peuvent exister, vous le disiez, on perçoit l'origine au bout de 7 mots seulement. Pensez-vous que nous...
J'ai pas dit qu'on percevait l'origine, j'ai dit que votre interlocuteur vous faisait entrer dans une catégorie socio-professionnelle. C'est un peu différent.
Et donc, pour lutter contre ça, pensez-vous que nous devrions nous inspirer du modèle anglo-saxon et enseigner très tôt aux élèves la parole, la prise de parole en public ?
C'est une évidence. De ce point de vue-là, le grand oral du bac a été un progrès considérable, puisque enfin, on a fait de l'oralité une compétence non pas décisive pour 10% ou 12% de la note, c'est pas non plus rédhibitoire, mais symboliquement, on a enfin dit que l'oral et l'écrit étaient des compétences pour la vie et que donc ils devaient être testés l'un comme l'autre au baccalauréat, qui est la porte d'entrée vers l'enseignement supérieur et la vie professionnelle. Et les anglo-saxons avaient un temps d'avance sur nous de ce point de vue-là, dans la spontanéité, dans l'acceptation aussi de l'imperfection de la parole. Nous avons des angoisses de toute nature, on se dit que si c'est pas parfait, ça n'a pas lieu d'être, que la parole est angoissante parce que le regard de l'autre est un regard malveillant, on doit se faire une montagne d'absolument toute prise de parole, alors que en réalité, ça n'est rien d'autre que ce que l'on fait tous les jours. Ouais. Tous les jours, nous nous exprimons les uns avec les autres, et le fait de devoir le faire devant plus de gens ne modifie pas totalement la nature de l'exercice. C'est simplement une communication de ses convictions, de ses connaissances, de ses émotions. Mais il est certain que, de ce point de vue-là, le grand oral a enfin symboliquement acté l'importance de l'oral dans la vie de chacun. Après, bien évidemment, la difficulté est que, et c'est probablement le combat qui reste à mener dans l'oral au sein des collèges, lycées, voire du primaire d'ailleurs. Hein. Vous savez que chez les anglo-saxons, ça commence dès l'école primaire, et qu'on a le name and tell, le show and tell, enfin, on raconte une histoire, on montre un objet, on parle d'une personne, etc. Et c'est probablement d'ailleurs dès l'enfance, quand le regard de l'autre n'est pas du tout discriminant ou pénalisant ou effrayant, que la parole peut s'épanouir. Ce qui reste à conquérir, et c'est un enseignement dédié, puisque c'est une épreuve, le grand oral, à laquelle ne correspond aucun enseignement et aucun enseignant. C'est un peu paradoxal, on n'imagine pas qu'il y ait une épreuve de mathématiques et qu'il n'y ait pas d'heures dédiées, de professeurs dédiés. Et s'il y a un grand oral, il faudrait évidemment qu'il y ait des heures dédiées et des professeurs dédiés. C'est une spécialité, la prise de parole en public. Ça n'est pas n'importe quel enseignant, quelle que soit sa bonne volonté, même si ce sont aussi des professionnels de la parole, qui peut transmettre les règles de la prise de parole en public. Et donc, c'est une discipline en soi qui justifierait un enseignement en soi.
Oui, c'est très bien, merci.
C'est clair. Vous nous avez éclairé un peu sur le côté positif de la prise de parole, mais n'existe-t-il pas un versant négatif de l'éloquence ? Je pense au fait de passer du pouvoir de persuasion au pouvoir de manipulation, par exemple.
Mais la manipulation est consubstantielle à la parole. Nous nous manipulons actuellement. Bien sûr, vous avez une idée derrière la tête, j'en ai une, et chacun essaye de faire en sorte que ces deux idées ne soit pas dans une confrontation. Donc, je réponds à votre demande, vous m'orientez dans votre demande, donc chacun manipule l'autre dans la parole. Il est évident que dans une relation amoureuse, vous vous manipulez les uns les autres, dans une relation professionnelle, nous nous manipulons les uns les autres, et la parole est un instrument de manipulation. Reste deux choses dans la résistance à la manipulation. qui sont le libre arbitre et l'esprit critique. C'est-à-dire que je conserve, recevant la parole d'un autre qui donc nécessairement cherche à me manipuler, ma liberté de penser et mon esprit critique. Et donc je suis libre d'adhérer ou de ne pas adhérer, d'opposer mes propres techniques de manipulation. Mais la manipulation, c'est pas nécessairement vulgaire de manipuler. Manipuler, c'est simplement tenter de faire en sorte que quelqu'un réagisse d'une façon ou d'une autre. Mais ça ne veut pas dire violer. Ça ne veut pas dire subjuguer, soumettre au joug quelqu'un. C'est juste d'essayer de lui dire les choses selon ma vision. Je vais désincarner ma vision des choses. Donc, évidemment, la parole a pour objet de manipuler. C'est sa raison d'être. Enfin, il y en a d'autres. Hein. Encore une fois, transmettre ses émotions, ça peut être un émerveillement, une parole esthétique, etc. Mais pour autant, la manipulation n'est pas en elle-même vicieuse. Et ce qui évidemment est vicieux, c'est la manipulation à des fins totalitaires ou violentes, etc. Ça, bien sûr que la parole peut y contribuer, que la question du rapport entre l'éthique et la parole est une question éternelle depuis Gorgias, mais je ne peux pas dire que la parole aurait un versant noir qui serait la manipulation. Non, elle manipule. Après, ce qui est le versant noir, c'est quel est le dessein derrière la manipulation. Mais inévitablement, nous nous manipulons les uns les autres et c'est l'objet même de la parole. C'est d'expliquer sa vision du monde et d'essayer de faire adhérer quelqu'un à sa vision du monde, ou en tout cas de confronter sa vision du monde à celle d'un autre. Mais sans nécessairement, encore une fois, vouloir prendre le pouvoir sur l'autre. C'est une proposition. Voilà.
D'accord, c'est clair. Là, nous avons évoqué avec vous la prise de parole en public, mais nous aimerions évoquer avec vous l'exercice du débat.
Oui.
Et en quoi la rhétorique lors d'un débat peut-il faciliter à faire adhérer son contradicteur à ses idées ?
Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'un débat sain est pour objet de faire adhérer l'autre à ses idées. On a l'impression, dans la façon dont vous posez la question, qu'un débatteur arrive avec un corpus idéologique et que son seul objectif est de soumettre son interlocuteur à son idéologie. C'est évidemment totalement... Alors, je pense que c'est inexact, puisque dans ce cas-là, c'est un débat vain, puisque de l'autre côté, l'autre vient aussi avec son corpus idéologique et avec la même idée. Il ne peut rien en... Alors, quand j'ai dit qu'il ne peut rien en demeurer ou que ça ne peut rien produire, oui et non, ça dépend ce que vous entendez par débat. Si vous entendez, et qui est l'objet du débat, soit les débatteurs sont l'objet l'un de l'autre, ce qui suppose que chacun soit malléable dans ses convictions. J'ai un avis... Vous avez un avis, vous allez me le donner. Finalement, peut-être que je vais adhérer en tout ou en partie à votre avis parce que vous aurez su me convaincre. Ça, c'est un débat interpersonnel dont nous sommes, chacun des débatteurs, l'objet et le sujet. Et il y a un autre type de débat dont le sujet n'est pas l'acteur du débat, mais le tiers observateur, c'est-à-dire... Nous débattons, nous confrontons nos idées, sans idée de nous convaincre l'un à l'autre, mais avec simplement l'idée que celui qui est en position d'être malléable et d'être conquis, eh bien, c'est celui qui nous regarde. C'est le débat politique. Dans le débat politique, personne ne va changer d'avis. Bien évidemment, les convictions sont tout à fait figées. Simplement, l'objet du débat est extérieur au débat lui-même. Il est incarné par le citoyen. Mais les débatteurs ne sont pas les objets de leur propre débat. Donc, vous voyez, il y a plusieurs situations de débat. Il y a le débat où le débat se suffit à lui-même parce que nous sommes les sujets, les objets du débat et que nous n'avons pas d'idée arrêtée. Vous savez, Nietzsche dit « les convictions sont des prisons hein, ». Donc, nous ne sommes pas encore embastillés dans nos convictions. Elles peuvent évoluer. Ou alors, vous dites que nos convictions sont figées. Et simplement, nous allons essayer d'en convaincre un tiers qui est le spectateur ou les lecteurs.
D'accord. Très bien. Très clair.
Et pour poursuivre sur la question des débats, est-ce que vous avez remarqué un recul, des débats dits sérieux au profit des débats spectacles? Je pense notamment à des émissions où on évoque des sujets assez sérieux, mais avec des chroniqueurs qui disposent pas de la légitimité pour les aborder, comme Touche pas à mon poste, par exemple, des choses comme ça.
Oui, évidemment qu'il y a une irruption de la société du spectacle dans le débat, et que ça fait beaucoup de mal au débat, qui devient lui-même un objet de divertissement, et qui est donc contraint de se soumettre au code du divertissement, donc la brièveté, la brutalité, ce qui fait qu'un débat est diffusable à la télévision, ou sur Twitter, où l'hystérisation gagne partout. Après, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis, là encore, qui s'appelle America in One Room, qui a été faite, je crois, en 2019 dans une université américaine, et au cours de laquelle on a, pendant quelques jours, 4 jours, je crois, sur un campus américain, vous savez, ils ont des campus d'université où ils ont énormément de places, des amphithéâtres, etc. Et on a mis dans une université quelques centaines de participants qui n'avaient rien d'autre à faire pendant ces quelques jours que de débattre, mais de débattre au sens premier du terme, c'est-à-dire non pas débattre pour un tiers, mais débattre pour eux-mêmes, sans l'idée d'afficher une conviction et de vouloir la défendre, sauf à perdre la face vis-à-vis de l'extérieur. Donc des débatteurs entre guillemets honnêtes, et ils avaient des débats en séance plénière, en petits groupes, et des débats avec des experts, c'est-à-dire qu'on ne les laissait pas débattre vainement de choses qu'ils ne connaissaient pas, et donc ils ont débattu pendant plusieurs jours, et on a mesuré leur taux d'accord et leur taux de désaccord au début et à la fin. Et il se trouve que les chiffres ne sont pas forcément absolument exacts, mais de mémoire, au début de l'expérience, ils ont 29 points de désaccord majeurs, et à la fin, ils en ont plus que 4. Donc, premier effet. Et deuxième effet, les positions les plus extrêmes ont quasiment totalement disparu. Tout le monde s'est recentré. Ce qui montre que le débat est chimiquement possible, puisque c'est quasiment une expérience à protocole scientifique. Si on a 3 choses, si on a du temps, 4 jours pour débattre, c'est un luxe. Si on a de l'expertise, si les débats n'avaient pas été intermédiés par des experts ou des sachants, ils en seraient restés probablement au point de départ. Et si on a de la bonne foi, parce que encore une fois, le présupposé pour participer était d'accepter de changer d'avis. Et donc, si vous avez cela, vous pouvez toujours débattre, et c'est toujours fructueux. Après, évidemment, le temps, l'expertise et la bonne foi, c'est précisément ce qui fait défaut à la société du spectacle.
D'accord. Donc, en soi, si j'ai bien compris, les débats qu'on voit actuellement à la télévision, qui sont télévisés, vont servir à orienter, à manipuler et donc à convaincre le tiers auditeur, mais en soi...
je crois qu'il ne les sert pas à les convaincre, il sert d'abord à les distraire. Et je ne suis même pas sûr que les personnes qui regardent soient dupes. Est-ce que ces personnes regardent cela comme... fasciné par le débat et subjugué? Est-ce que derrière, il n'y a pas un esprit critique qui se joue? Vous savez, lorsqu'on interroge les Français sur le débat, ils disent à quel point ils en ont assez des débats caricaturaux et stériles. Et donc, quel paradoxe qu'on leur offre ça.
Alors que sur les réseaux sociaux, par exemple, lors d'un débat de plusieurs heures ou de plusieurs minutes, on va vraiment se focaliser sur les punchlines. Et on ne va pas forcément mettre en avant ou mettre en exergue même les paroles un peu plus sérieuses. Donc c'est ce qui fait un peu de défaut et c'est ce qui fait mal au débat, je trouve.
Oui, évidemment, il n'y a rien de moins télégénique qu'un débat. Un débat, c'est assommant. Ce sont des gens qui doutent, qui sont dans l'incertitude, qui réfléchissent. C'est totalement incompatible avec les règles d'un débat télévisé, ou même d'un débat sur les réseaux sociaux, où on doit absolument dominer l'autre, où on doit absolument être radical, sinon on n'existe pas.
Donc, les débats, par exemple, d'entre-deux-tours, plus que des débats, sont un peu des combats, enfin, dominer l'autre pour convaincre
toute la mise en scène concourt à cela. Enfin, on règle la température, la distance, enfin, ouais. on scénarise ouais. tout ça, de façon d'ailleurs surjouée la plupart du temps. Mais je ne dis pas que ce sont de mauvais débats, certains sont d'excellents débats, d'accord. mais ce sont des débats au sens confrontation d'idées, et c'est normal, pour permettre à l'électeur de choisir son vote.
En tant que futur avocat, donc nous aimerions évoquer avec vous le lien indéfectible entre l'éloquence et la profession d'avocat.
Personne dans votre TJCE ne veut être magistrat ou enseignant ?
Non, la plupart veulent être avocat, la grande majorité, je dirais qu'il y a peut-être deux juristes
d'entreprise.
Ou juristes d'entreprise,
ouais, oui, bien sûr. Sur les 23 élèves que nous sommes.
D'accord. Voilà. L'avenir de la profession est assuré, nos retraites sont sauvées. C'est formidable.
Donc, il y a un lien indéfectible entre la profession d'avocat et le fait d'être éloquent. Mais la question...
Ou pas nécessairement non plus. La plupart des avocats n'ont aucune activité plaidante. Mais oui. ça veut dire, ça dépend ce qu'on entend être éloquent. On peut être éloquent dans une réunion, on peut être éloquent dans une négociation. Je ne voudrais pas qu'on véhicule l'image d'Épinal de l'avocat qui fait des effets de manche, qui, comme vous le savez, n'existe plus. L'avocat plaidant, qui serait une espèce de ténor un peu égotique, qui ferait des périodes pour souffler, n'existe plus, à supposer qu'il ait d'ailleurs jamais existé. En tout cas, je peux témoigner qu'il n'existe pas. Et encore moins, je dirais, au Conseil d'État et à la Cour de cassation, où pour le coup, on a une éloquence qui est extrêmement technique, extrêmement dirigée sur la question de droit, puisque les questions de fait ont été souverainement constatées, tranchées par les juridictions du fond. Et c'est vrai que quand on vient plaider un point de droit devant la Cour de cassation, l'éloquence est d'abord une affaire de technicité, de précision, plus que d'émotion ou que de réalité humaine. En réalité, c'est vraiment la question de droit qui gouverne le débat.
D'accord. Et il est plus facile de convaincre un juge, un magistrat ou un jury ?
Alors, en réalité, je ne peux pas vous répondre parce que le délibéré est en secret. Je ne sais pas ce qui convainc l'un et ce qui convainc l'autre. À l'image d'Épinal, dirait que l'on convainc un juge et qu'on persuade un juré. L'un par la raison et l'autre par l'émotion, mais c'est un cliché. Et en réalité, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui, dans le délibéré d'une cour d'assises, pèse et qui fait que, finalement, le magistrat professionnel a basculé sur cet argument et que le jury populaire a basculé sur cet autre argument. Donc, en fait, on ne le sait pas. C'est ça qui est toujours un peu vertigineux dans notre métier. C'est qu'on ne sait pas à quel moment on a convaincu. On ne sait pas, même si on a convaincu, parfois, on a l'impression qu'on a tout donné et puis finalement, ça ne marche pas. Et donc, la profession d'avocat est d'abord une profession du doute, de la remise en cause permanente. Tous les jours, parfois, je me dis, mais je ne vais jamais y arriver. J'ai soutenu ça, j'ai pas gagné. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Et vous avez des grands sentiments d'impuissance, de solitude, et il faut repartir. Mais c'est un métier où on est d'abord confronté à la frustration.
D'accord. Pour rebondir sur ce que vous avez dit sur la profession d'avocat au conseil, j'ai l'impression que donc il vaut mieux être un très bon technicien qu'une personne très éloquente.
Oui, alors l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Je serais bien prêt à soutenir que être éloquent, c'est expliquer simplement une question technique très complexe.
D'accord.
Mais notre éloquence à la barre, encore une fois, ne peut pas porter sur les faits puisque ça n'est pas de la compétence de ceux qui nous écoutent.
Ouais.
Donc je peux raconter des questions de faits, ça n'est pas l'objet de la discussion. Et donc on est vraiment sur des règles de droit, c'est ça qui est passionnant dans notre métier, c'est-à-dire que les questions de faits qui peuvent parfois être un obstacle moral, non plus court, la question se pose dans la pureté de la règle de droit. Quels que soient derrière les errements des clients. Si j'ai une très belle question de droit, que ce soit sur un trafic de stupes, un excès de vitesse, ou un meurtre, un assassinat, un terrorisme, etc., finalement, il reste la question de droit qui est la même pour tout le monde. Et donc, ça me donne en réalité une grande liberté. Le fait de ne plaider que le droit nous rend très libres. Et après, oui, c'est une éloquence très technique, où on plaide d'abord sur des écritures. On ne plaide jamais sans avoir écrit auparavant. D'ailleurs, on ne serait même pas recevable à plaider si on n'avait pas écrit. Quelqu'un qui ne présenterait pas de mémoire n'aurait pas accès à la barre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Et donc, on ne fait que synthétiser, concentrer, reprendre ce qu'on a écrit pour essayer de montrer comment une juridiction éclaire l'autre, comment un principe de droit a telles ou telles conséquences sur d'autres champs du droit. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est la porosité entre tous les champs du droit et on a accès, nous, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, à la barre des deux juridictions qui vont faire la jurisprudence pour tout le territoire. Et donc, on a la possibilité de mettre en lumière d'une juridiction à l'autre, d'une matière à l'autre, la responsabilité civile, la responsabilité administrative, le civil et le pénal, je sais pas, par exemple, sur la chose jugée, même à l'intérieur des juridictions civiles, les questions de prescription qui ne sont pas toujours gérées de la même façon. Enfin, voilà, ça, c'est très intéressant, c'est ces dialogues de juges entre juridictions ou au sein même des juridictions.
D'accord, très bien, merci. Merci. Pour terminer ce podcast, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui sont timides, qui n'arrivent pas à prendre la parole en public ou...
qu'est-ce qu'ils devraient faire? La première chose, c'est que ça n'est pas rédhibitoire. Tout le monde a peur, chacun, j'ai peur, tout le monde a plus ou moins peur de prendre la parole en public. Plusieurs choses. D'abord, il n'y a rien de plus banal que de prendre la parole. Nous le faisons tous, chacun, quotidiennement. Pourquoi est-ce que le fait de le faire en public augmenterait de façon rédhibitoire l'idée du stress? C'est quelque chose qui est nécessaire à la communication de nos idées. Ceux qui vous écoutent ont aussi intérêt à ce que vous vous exprimiez clairement. Personne ne vous veut du mal. Ne vous dites pas, ah là là, ils veulent absolument que je sombre. Non, personne ne veut que vous sombriez, personne n'a intérêt, c'est la gêne qu'occasionne quelqu'un que l'on voit en difficulté à l'oral. Après, c'est toujours pareil, hein. Si vous n'avez pas travaillé votre sujet, vous pouvez être le plus extraordinaire tribun, ben, ça va être beaucoup plus difficile, hein. C'est d'avoir travaillé, il n'y a rien d'autre que cela. Hein. Travailler, douter toujours. Je suis fasciné par les jeunes gens qui ont des plans de carrière, par exemple. Je trouve ça effroyable. Moi, j'ai aucun plan de carrière, j'ai 50 ans. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, 25 ans, et j'ai aucun plan de carrière. J'ai commencé par un métier avocat à la cour, après j'en ai fait un autre avocat au conseil. Laissez-vous guider, laissez-vous porter, prenez le meilleur des opportunités qui vous sont offertes, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas... Enfin, moi, je voulais être avocat au conseil tout de suite. J'ai mis 16 ans ou 17 ans à le devenir. Donc, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas non plus d'exigence sociale. Faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez envie d'un métier où on prend très peu la parole, bah, faites ça. Ça peut être très bien d'avoir un métier de pure écriture. C'est très noble et très digne. Et sinon, bah, si vous aimez prendre la parole, bah, faites-le beaucoup. C'est comme un muscle, vous savez, ça s'entraîne. Et donc, bah, si vous courez le marathon et que vous n'avez jamais fait un 5 km, vous allez avoir vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Alors que si vous faites 5, puis 10, puis 15, puis 20, à un moment, vous allez aller peut-être à 41 ou 42 km. Donc, c'est exactement la même chose. Et donnez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre. Encore une fois, si vous faites 200 mètres pour courir derrière votre bus et que vous inscrivez au marathon, probablement que vous n'allez pas finir et que vous vous direz « Oh, la course à pied, c'est pas pour moi ». Ça n'est pas vrai. Ce qui n'est pas pour vous, c'est le marathon en l'état. Mais si vous faites 5 km, peut-être que vous allez y arriver, puis 10, puis 15, puis 20. Donc, donnez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre. Ne vous dites pas que vous allez être immédiatement un grand tribun d'estrade et que vous allez convertir et subjuguer les foules. Ça n'est pas vrai. Puis, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Ne le nions pas, c'est une réalité. Et donc, il y a des gens pour lesquels c'est plus facile. Pour ceux pour lesquels c'est plus difficile, eh bien, donnez-vous des objectifs petit à petit. Et si vous ratez, eh bien, ne vous dites pas que c'est fini pour autant. Refaites. Moi, je refais tout le temps, tous les jours. Je refais. Et parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas.
Mais merci.
Merci, je vous en prie. Parier.
Merci beaucoup, Maître Père.
Merci.
Nous espérons que ce deuxième podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes.
Nous sommes désormais présents sur Instagram et TikTok sous le nom d'Athé Podcast. Vous pourrez découvrir les making-of et nous suivre de manière générale via nos stories.
Nous vous remercions pour l'écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.